Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Regardons ensemble ce soir le premier chapitre de Romains. Romains chapitre 1, en examinant à nouveau les versets 19 à 23. Je sens énormément d'intérêt pour le passage. Il y a un grand intérêt dans mon propre cœur pour découvrir toute la profondeur de la vérité que Dieu a mis dans ce texte particulièrement significatif. Je peux aussi dire par votre réponse que vous êtes tout aussi enthousiasmé par ce que vous apprenez. Nous examinons les versets 18 à 23. Paul présente l'évangile du Seigneur Jésus-Christ avec une déclaration directe sur la colère de Dieu. C'est là que la bonne nouvelle doit commencer. Il faut d'abord commencer par la mauvaise nouvelle. Rappelons-nous ces versets en suivant ce que je lis à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est ainsi que Paul commence le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La colère de Dieu est révélée contre toute impiété. Maintenant, Paul s'y inspire, je crois, et présente le côté négatif de la bonne nouvelle du Seigneur lui-même. Notre Seigneur avait plus à dire sur le jugement, plus à dire sur la destruction, plus à dire sur la damnation, et plus à dire sur l'enfer que n'importe qui d'autre rapporté dans les Écritures. Si vous trouvez inhabituel que cette grande épître sur la doctrine du salut s'ouvre avec cette déclaration sur le jugement, c'est parce que vous n'avez pas vraiment réfléchi très longtemps à la façon dont tout le Nouveau Testament s'ouvre. Parce qu'en entrant dans le Nouveau Testament, vous entrez d'abord dans l'évangile de Matthieu. Je veux que vous vous y tourniez pendant un moment. Je veux présenter nos pensées par un rapide tour d'horizon de l'évangile de Matthieu. Je veux que vous voyez une focalisation répétée que notre Seigneur donne dans cet évangile. Et rappelez-vous que ceci est l'introduction, c'est l'ouverture du Nouveau Testament. Vous trouvez, par exemple, dans Matthieu 3:7, « Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Verset 11, Jean le Baptiste dit en outre, « Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Matthieu 5, 22. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, c'est le Seigneur qui parle maintenant, contre son frère, mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que tout ton corps entier n'aille pas dans la Géhenne. » Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 8:12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 10:15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 12:36. Le Seigneur continue de parler. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Bien sûr, dans ce passage, le Seigneur parle d'un jugement comparable. Dans Matthieu 13:40, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Verset 49. « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 16:26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? » Matthieu 18:34. « Et son maître irrité le livra au bourreau. » En fait, le mot grec pour bourreau est le mot tortionnaire. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Une image de jugement. Vous avez au chapitre 22:7, dans la parabole de la fête du mariage. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Au verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dieu est considéré comme le roi en jugement. Matthieu 23:33. Notre Seigneur dit, « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Matthieu 24:50. Le maître de ses serviteurs, représentant un nouveau Dieu, paraboliquement, viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Enfin, Matthieu 25:26, et de nouveau en parabole. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Cela suffit maintenant pour faire passer le message, n'est-ce pas? Maintenant, quel est le point que j'essaie de faire valoir? Écoutez attentivement. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a pas de fraude dans le cœur de notre Seigneur, alors que le message du Nouveau Testament est donné. Il est clair dès le début que Dieu est un Dieu de jugement, que Dieu est un Dieu de colère, que Dieu est un Dieu qui punit le péché, et ce message est principalement prononcé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Au fait, c'est précisément ainsi que le Nouveau Testament se termine, comme il a commencé. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer dans les portes de la ville. dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Écoutez, le Nouveau Testament commence par des avertissements de jugement, et c'est précisément ainsi qu'il se termine. Ainsi, nous ne sommes pas surpris, alors que nous approchons l'Épître aux Romains, de trouver l'apôtre Paul, qui commence sa présentation de l'Évangile, par une déclaration mettant en garde les hommes sur la colère de Dieu. Cela commence ici même, au verset 18, où il commence à décrire son message. Les 17 premiers versets étant une introduction, et il s'ouvre avec une déclaration de la colère de Dieu. Maintenant, nous avons déjà commencé à étudier cela, et nous nous sommes posé la question qui revient si souvent. Dieu est-il juste? Est-il juste dans un tel jugement? A-t-il droit à une telle colère et à de tels actes de vengeance? La réponse vient dans les versets 19-23. Par conséquent, c'est un passage très crucial, car les gens critiquent très souvent le Dieu de la Bible en disant qu'il est injuste, qu'il est autoritaire, qu'il juge, qu'il condamne. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer les gens en enfer, et ainsi de suite? Au tout début, Paul parle de sa colère et défend ensuite le droit de Dieu d'agir de cette manière. Maintenant, nous examinons dans les versets 19-23 les raisons de la colère de Dieu. Il y a une séquence de raisons données par Paul, qui sont également parallèles au déclin et à la chute de l'homme. Depuis le début, j'ai mentionné 4 raisons fondamentales pour lesquelles la colère de Dieu est justifiée et correcte, et celle-ci relate également le déclin de l'homme. Premièrement, nous avons choisi le mot « révélation », et dans les versets 19 et 20, nous avons appris que Dieu a le droit d'être en colère, parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifeste dans les hommes, car Dieu leur a montré cela. Des choses invisibles de sa nature que les hommes ne pourraient jamais voir. Il y a toujours des responsabilités parce que Dieu s'est révélé dans son monde créé, et c'est ce que dit le verset 20. Par les choses qui sont faites, Dieu se manifeste, de sorte que les hommes sont sans excuse. Donc la première raison pour laquelle Dieu peut agir en jugement contre l'homme est parce que les hommes ont reçu la vérité de Dieu, comme nous l'avons montré, s'ils avaient vécu selon la lumière que Dieu leur avait donnée. Il leur aurait donné plus de lumière. Dieu a été révélé dans sa création. Je voudrais vous rappeler 2 passages comparatifs très essentiels. Le premier dans Actes 14, 15, où Paul dit « Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, c'est-à-dire aux faux dieux, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Paul dit, quoiqu'il nécessite de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et remplissant vos cœurs de joie. En d'autres termes, le Dieu de la création a manifesté sa nature, et cette nature est visible dans son monde créé. Puis Acte 17, un passage tout aussi essentiel. Au verset 23, Paul passe par une inscription particulière sur une idole, à un Dieu inconnu. Il décide qu'il doit leur dire qui c'est. Il dit « c'est le vrai Dieu ». Verset 24, « le Seigneur du ciel et de la terre ». Puis au verset 27, il dit « il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous ». Ainsi, le Nouveau Testament nous dit que Dieu est révélé dans sa création. En fait, il va même plus loin, dans Jean 1:9. Pour dire que Christ était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dieu s'est révélé à tout le monde dans son ordre créé. L'homme est donc responsable de la révélation de la vérité de Dieu. Maintenant, si les hommes, et je veux que vous compreniez ceci, si les hommes acceptent la lumière qu'ils ont, affirment cette lumière, croient cette lumière, alors je crois que Dieu leur donnera plus de lumière pour les amener à la connaissance du Christ. Il est important à ce stade de le dire. Personne n'est jamais sauvé sans la foi en Jésus-Christ. Depuis le temps de l'accomplissement de l'œuvre du Christ sur la croix et le tombeau ouvert, nul ne peut être sauvé en dehors du Christ. Il n'y a pas non plus de salut dans qui ? Aucun autre, seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, nous devons atteindre les personnes avec le nom du Christ. Vous dites, qu'en est-il de ces personnes qui sont dans un endroit éloigné, s'ils vivent à la hauteur de la lumière qu'ils ont? Je crois que Dieu leur permettra d'entendre le message pour être sauvés. Il le fait, bien sûr, par sa grâce souveraine, prédéterminée et prédestinée, alors qu'il cherche à racheter les hommes. Il amènera, si vous voulez, les élus à lui et leur donnera le privilège d'entendre. Vous voyez, le grand message nous dit d'aller prêcher et d'aller faire de chaque nation des disciples, d'aller prêcher l'évangile à chaque créature, et cela suppose qu'ils doivent entendre l'évangile du Christ. Les hommes sont jugés et envoyés en enfer, non pas parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la lumière qu'ils avaient, mais parce qu'ils ont rejeté Christ. C'est Jean 16. L'Esprit est venu dans le monde pour convaincre le monde, parce qu'il n'a pas cru en Jésus-Christ. C'est le péché cardinal. Ainsi, ils doivent entendre parler de Christ. Mais je crois que s'ils vivent à la hauteur de la lumière qu'ils ont, dans la merveilleuse grâce souveraine de Dieu, il leur apportera le message du Christ, à travers un missionnaire, à travers un livre. Les personnes qui s'interrogent toujours sur les païens doivent trouver leur réponse dans le caractère, la nature et la puissance de Dieu. Il n'est pas limité. Il est juste et miséricordieux. Dieu est souverain, celui qui l'attire et celui qui l'appelle. Il lui permettra d'entendre le message. Mais puis-je me hâter d'ajouter, ne pensez pas que si les personnes ne sont pas sauvées, Dieu n'est pas juste. Car si Dieu était juste, personne ne serait sauvé, car aucun de nous ne le mérite. Nous ne regardons donc pas la bonté de l'homme comme si c'était le problème. Nous regardons la miséricorde de Dieu. Je crois donc qu'il y a assez de lumière pour chaque homme, et que si des hommes vivent à la hauteur de cette lumière, Dieu le leur fera parvenir le message, par sa puissance souveraine. « Pour que tout ce que le Père me donne, dit Jésus, vienne où ? À moi, et je n'en ai perdu aucun. » Nous voyons donc qu'au verset 19 et 20, la première raison pour laquelle le jugement est justifié est que les hommes ont la révélation. Deuxième raison, le rejet. Les hommes se sont détournés de cette révélation, et le verset 21 le dit, « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils s'en sont détournés, puisque, ayant connu Dieu, comment ont-ils connu Dieu ? En se basant sur les versets 19 et 20. Ils connaissaient Dieu à cause de sa création du monde et de tout ce qu'il contient, et aussi par la révélation de sa nature dans sa création. Ils étaient sans excuse, et pourtant, ils se sont détournés. Quelle était la clé ? Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ont refusé de rendre gloire à Dieu. Et nous sommes allés dans une certaine mesure jusque-là la dernière fois. Donc nous ne reviendrons pas dessus. Mais c'est la définition cardinale du rejet de l'homme. Ils ne glorifieront pas Dieu. C'est le problème. Les hommes ne répondent pas à Dieu. Maintenant, nous ne devrions pas être tellement surpris quand Christ est venu dans le monde, Dieu dans la chair humaine, qu'il ne lui ait pas répondu non plus et qu'ils aient refusé de glorifier Christ. Parce que c'est comme cela avec l'homme déchu. Il refuse de glorifier Dieu. Vraiment, c'est un voyage de l'ego. Il cherche plutôt à se glorifier. Maintenant, nous sommes entrés dans certains détails la dernière fois, en parlant de l'effort de Dieu, pour amener les hommes à le glorifier. Et je me suis dit, vous savez, il y a peut-être une question dans l'esprit de certaines personnes quant à ce que signifie glorifier Dieu, donner-lui l'honneur, et ainsi de suite. Mais supposons pratiquement que nous sommes chrétiens, et nous disons, non, nous glorifions Dieu. Nous ne sommes pas comme ces gens de Romains 1. Nous sommes totalement différents. Nous sommes prêts à glorifier Dieu. Nous souhaitons vraiment le faire. Que faisons-nous? Si nous savons ce que c'est que de glorifier Dieu, nous pouvons savoir comment ne pas glorifier Dieu, n'est-ce pas? Par contraste. Alors, que signifie glorifier Dieu? Accrochez-vous maintenant à votre siège. Je vais vous donner ceci rapidement. J'ai couvert cela dans une série il y a quelques années, mais c'est un matériau extrêmement important. Peut-être le plus important que je n'ai jamais prêché. Et je vais le faire très vite. Comment les hommes glorifient-ils Dieu? Comment vous et moi glorifions Dieu? Premièrement, en confessant Jésus comme Seigneur. C'est là que tout commence, dans Philippiens 2:9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse, écoutez bien, que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Pour commencer, nous glorifions Dieu en confessant Christ comme Seigneur. C'est là que tout commence. C'est précisément ce que le monde ne fera pas. ils ne reconnaîtront pas plus la seigneurie du Christ qu'ils ne reconnaîtront la seigneurie du Dieu souverain à l'époque de l'Ancien Testament. Ils refusent de faire cela, que ce soit Dieu dans l'Ancien Testament, que ce soit Christ dans le Nouveau. Il existe une deuxième façon de glorifier Dieu. Nous glorifions Dieu en vivant dans ce but. En d'autres termes, notre objectif de vie tout entier est fixé dans cette direction. C'est précisément la signification de 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et choisis les deux aspects les plus banals, routiniers, élémentaires de la vie, manger et boire, qui sont simplement très neutres, des sortes de choses non religieuses. Mais il dit même cela, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la quoi ? Pour la gloire de Dieu. Maintenant, cela signifie simplement que dans toutes les activités de la vie, nous faisons tout pour honorer Dieu. Est-ce ainsi que les gens vivent dans notre monde ? Est-ce là leur objectif ? Oh non ! Oh, ils ne sont pas du tout impatients de faire cela. Ils ne sont même pas intéressés par ce qui glorifie Dieu. Mais cela doit être le centre de notre vie. En d'autres termes, nous visons cela, à tout prix. En fait, le Seigneur a même dit à Pierre, « Tu vas mourir. » Et l'écrivain, Jean, dit, « Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. » Jean 21. Donc, glorifier Dieu pour Pierre était de mourir, étant prêt à payer le prix suprême de sa propre vie, afin de rendre gloire à Dieu. Comment glorifions-nous Dieu ? Premièrement, il faut confesser Jésus comme Seigneur. Deuxièmement, mener notre vie à cet objectif, peu importe ce que cela nous coûte. Troisièmement, nous glorifions Dieu en confessant notre péché. Dans Josué 7,19, Josué s'est approché d'Acan, qui avait volé des choses à Jéricho, et on lui avait dit de ne pas faire cela. Dieu avait dit que c'était interdit, mais il avait volé ces choses. Josué lui dit, « Écoute-moi, rends gloire au Dieu d'Israël et confesse ton péché. La confession du péché glorifie Dieu. » Vous dites, « Comment ça ?» Maintenant écoutez attentivement, parce que lorsque vous péchez, Dieu réagira d'une manière sainte. Quand vous péchez, il y a du châtiment. Mais si vous admettez le péché, vous affirmez le fait que vous méritez le châtiment. Donc quand Dieu vous châtie, vous n'allez pas l'accuser d'être injuste. Vous voyez, lorsque vous niez votre péché, alors vous nierez également que Dieu a le droit de vous châtier, et ensuite vous attaquez son caractère en disant qu'il est injuste. Alors Josué a dit à Acan, « Tu confesses ton péché, parce que tu es sur le point de mourir. Quand tu mourras, et tous ceux qui ont été impliqués avec toi, nous voulons que l'on sache que tu meurs justement, parce que tu as violemment et volontairement péché contre Dieu. Nous glorifions alors Dieu en admettant notre péché, et c'est quelque chose que le monde ne fera pas. 1 Jean 1 dit qu'il est caractéristique des hommes de dire, « Nous n'avons pas de péché, et faisons de Dieu un quoi ? Un menteur ?» Le monde ne confessera pas Jésus comme Seigneur. Ils ne mettront pas leur vie à la gloire de Dieu. Ils ne confesseront pas leurs péchés. Et cela est exprimé dans la déclaration. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne sont pas intéressés par la vie aux conditions de Dieu. Quatrièmement, nous glorifions Dieu en lui faisant confiance. Dans Romains 4, 20, il est dit, « Il ne douta point, parlant d'Abraham, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Quand Dieu a dit, « Tu vas avoir un bébé », et qu'il avait 100 ans, et Sarah 90 ans. Il aurait été facile de douter, mais il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Vous savez ce qui glorifie Dieu ? Quand vous croyez en lui, c'est vrai. Quand vous le croyez, quand vous croyez sa parole, quand vous croyez ce qu'il dit, les non-croyants ne le croient pas. Ils ne sont pas intéressés par ce que Dieu dit. Ils ne croient pas aux Écritures. Ils ne croient pas que Dieu est digne de confiance. Ils ne mettront pas leur vie sous sa garde. Ils ne lui feront pas confiance pour leur destin. Ils ne le glorifieront pas. Cela part de là. Nous glorifions Dieu en le louant. C'est une autre façon. Le psaume 50, 23 dit, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Nous glorifions Dieu lorsque nous le louons. Les non-croyants ne feront pas cela. Un autre moyen. Nous glorifions Dieu lorsque nous prions. » Jean 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 13, 14. La prière donne à Dieu l'occasion d'être glorifié. Les hommes ne prient pas parce qu'ils ne recherchent pas la gloire de Dieu. Dans 1 Pierre 4, 10, 11, il est dit, « Faites votre don à la gloire de Dieu. » Ce dont il est question, ce sont des dons de service et des dons de parole. Servez le corps à la gloire de Dieu, servez l'Église de manière désintéressée. Les hommes ne sont pas intéressés par cela. Ils ne sont pas intéressés à se servir les uns les autres, sans parler de l'Église. Dans 2 Thessaloniciens 3:1, Paul dit que lorsqu'il proclame la parole, cela rend gloire à Dieu. Les non-croyants ne font pas cela. Dans 1 Corinthiens 6, il est dit que nous ne devons pas être unis à une prostituée, que nous devons prendre soin de notre corps avec sainteté. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Cela signifie que nous glorifions Dieu par la pureté morale. Vous voyez, la Bible est très claire sur la façon de glorifier Dieu. Vous glorifiez Dieu en confessant Christ comme Seigneur, en vivant votre vie dans ce but. Vous glorifiez Dieu en confessant votre péché, en lui faisant confiance, en le louant, en le priant, en servant son peuple, en proclamant sa parole, en étant moralement pur, et aussi dans 2 Corinthiens 4:15. Paul nous dit que nous glorifions Dieu en gagnant les personnes à Jésus-Christ. Le monde ne s'intéresse pas à cela. Ils ne savent même pas comment faire. Nous trouvons dans Jean 15:8 que nous glorifions Dieu en portant beaucoup de fruits, le fruit de la justice. Vous voyez que c'est le côté positif. C'est ce que signifie glorifier Dieu. Mais les rebelles de ce monde ne sont pas intéressés par cela. Ils ne croiront pas en Jésus-Christ. Ils ne le confesseront pas comme Seigneur. Ils ne viseront pas leur vie à la gloire de Dieu. Ils ne confesseront pas la culpabilité de leurs péchés. Ils ne feront pas confiance. Ils ne porteront pas du fruit spirituel. Ils ne loueront pas. Ils ne prieront pas. Ils ne serviront pas le peuple de Dieu. Ils n'ont aucun souci pour les perdus, et absolument aucune pureté morale. Ainsi, ils vivent en opposition violente et directe à ce qui glorifie Dieu. Ils ne feront pas cela. C'est la caractérisation de toute la race humaine, à part la régénération, car tous ont péché et sont privés de quoi ? La gloire de Dieu. Ils ne font tout simplement pas cela. Ils ne sont pas non plus reconnaissants, dit Paul, en 1:21. Ils ne sont pas reconnaissants. Pourquoi seraient-ils reconnaissants ? Ils ne voient pas Dieu comme la source de quoi que ce soit. Le manque d'action de grâce est une profanation terrifiante et un blasphème contre le nom de Dieu qui nous donne toutes les bonnes choses. Mais les hommes ne sont pas reconnaissants. Je pense si souvent à Luc 17, aux lépreux qui sont venus, et Jésus les a tous purifiés. Et combien sont revenus ? Il y en avait 10. Combien sont revenus et ont dit merci ? Un seul. Jésus lui dit, « Tu es sauvé ». Les 9 autres étaient physiquement entiers. Un seul était reconnaissant. Les hommes refusent de glorifier Dieu. Le vrai problème est qu'ils cherchent à se glorifier. Permettez-moi de vous donner une illustration maintenant. Daniel, chapitre 4. Cet homme que je veux que vous rencontriez dans Daniel 4 est Nebuchadnezzar, le plus grand monarque de l'histoire du monde, en ce qui concerne le monde, en dehors de la domination de Dieu. Nebuchadnezzar, roi du royaume d'or, Babylone. Nebuchadnezzar, qui était le supérieur de tout autre roi. Il a refusé de glorifier Dieu. Il ne s'y intéressait pas. En fait, il était tellement pris dans sa propre gloire que le verset 30 dit, le roi prit la parole et dit, dans Daniel, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Maintenant, il ne retenait plus du tout son ego. Je veux dire, il était vraiment content de lui. Il se promène dans son palais en criant à haute voix, « Regarde ce que j'ai fait pour ma propre majesté !» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, et chaque fois que vous entendez cela sortir du ciel, vous êtes profondément éprouvé. Qu'on va t'enlever le royaume ? C'est assez. Vous savez, il arrive un moment dans la patience de Dieu où la porte se claque et où il ne peut plus en supporter. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Tant que vous n'aurez pas compris qui est Dieu, vous serez un maniaque sauvage. Tu vas manger de l'herbe comme un bœuf. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Instantanément, ce plus grand monarque du monde perd la raison, devient malade mental, délirant. Il fut chassé du milieu des hommes, parce qu'il ne pouvait pas le maintenir. Il mangea de l'herbe comme les bœufs, Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. 7 ans de folie. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Je suppose que vous verrez Nebuchadnezzar dans le ciel, mais il a certainement appris à la dure que Dieu doit être glorifié, parce que les hommes ne font pas cela. Que se passe-t-il maintenant? Est-ce toujours le cas? Oui, toujours. Même en allant à la fin du Nouveau Testament dans le livre de l'Apocalypse, vous trouvez la même attitude de base. Dans Apocalypse 14:6, « Je viens notre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. » Maintenant, l'évangile éternel est un terme très intéressant. Je crois que c'est simplement l'avertissement divin que Dieu juge le péché et récompense la justice. C'est le message permanent, et cet ange le prêche. Que dit-il au verset 7 ? Craignez Dieu, et donnez-lui quoi ? La gloire. Pourquoi ? Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu appelle le monde à l'adorer, à lui donner gloire. Mais comme vous le savez, si vous savez quelque chose sur le livre de l'Apocalypse, ils ne répondent pas. Dans le chapitre 15, 4, il est dit « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car toi seul es saint. » C'est le message tout au long de la Bible, que les hommes refusent de glorifier Dieu. Que se passe-t-il maintenant ? Retour au verset 21. Que se passe-t-il ? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Il en a résulté un dialogue humain littéralement vide, inutile. Ils sont passés de la vérité au vide, puis du vide comme nous l'avons vu la dernière fois. Leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Le vide créa un vide et aspira à l'obscurité. Maintenant, qu'est-ce que l'obscurité ? Quel genre d'obscurité ? Que veut-on dire ? L'imagination vide, juste pour vous rappeler une dernière fois, signifie simplement les rêveries sans signification, les pensées sans signification, le dialogue humain inutile. En fait, le mot est « dialogismos » pour l'imagination, le dialogue humain, le débat humain, la discussion humaine, l'information humaine, les mots vides. Dans le vide, et le vide vient précipiter les ténèbres. Les ténèbres dans la Bible sont perçues de deux manières. La première est intellectuelle, et la seconde est morale. Je n'ai pas le temps ce soir, mais si nous le faisions, nous pourrions en parler. Vous trouverez à travers les Écritures des ténèbres illustrant l'ignorance intellectuelle, et vous la trouverez également illustrant la perversité morale. Vous le trouvez partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament également. L'obscurité fait référence à l'ignorance intellectuelle, à l'absence de vérité et à l'absence de droiture, à la perversion morale. C'est précisément ce qui se passe. L'homme dit non à Dieu, il ne glorifiera pas Dieu. Il décide qu'il va créer ses propres réflexions, et dans son grand néant vide qui sort de son esprit, il crée un vide qui aspire la noirceur intellectuelle et la perversion morale. Ainsi l'homme a perdu la compréhension, il a perdu la vertu. C'est pourquoi les philosophies de ce monde tendent vers l'immoralité. Ils n'ont aucun pouvoir de contrainte. Ils sont fondamentalement liés à l'immoralité. Les philosophies du monde acceptent l'immoralité, parce qu'elles sortent toutes les deux des ténèbres de l'enfer lui-même. Maintenant, toutes les vaines imaginations de l'homme vous donneront un héritage d'obscurité intellectuellement et d'obscurité moralement. Toutes les philosophies du monde ne vous laisseront rien d'autre que cela. Regardez avec moi très rapidement le chapitre 2 des Colossiens, et je vais vous montrer pourquoi. Colossiens 2:8. Maintenant, cela vient directement du Saint-Esprit à travers Paul. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et le verbe « tuer »,« piller », »,« défleurer » est un verbe très rare, utilisé pour « kidnapper quelqu'un », »,« piller une maison » ou « séduire et ravager une jeune fille ». Ne laissez personne vous kidnapper, vous séduire, vous piller par la philosophie. Maintenant, c'est assez clair, n'est-ce pas ? De la sagesse humaine, les théories de Dieu et de l'homme. Les théories de la vérité naissent des imaginations vides d'un cœur assombri. Quand quelqu'un vient me voir et me dit « Je vais étudier la philosophie », tout ce à quoi je pense, c'est ce passage. 2 Colossiens 8. Tu vas sortir kidnappé, pillé et ravagé, parce que tu t'es livré aux rêveries inutiles, des cœurs noircis, qui ne connaissent pas la vérité et ne connaissent pas la morale. C'est une vaine tromperie, et je crois que cette phrase décrit la philosophie. C'est une illusion vide, cela prétend être quelque chose. Ce n'est rien d'autre que ce qui peut ravager l'âme, c'est selon la tradition des hommes. Autrement dit, c'est humain, c'est du niveau de la pensée humaine inadéquate. Elle incarne les rudiments du monde, et c'est une expression utilisée plusieurs fois. Cela signifie les éléments de base de la sagesse humaine, les opinions infantiles, et pauvres d'un monde plein d'imbéciles. La philosophie ne vous fait pas avancer. La philosophie ne vous donne pas quelque chose de profond. La philosophie ne vous donne rien de nouveau. C'est une régression vers des perversions fondamentales de l'esprit humain, dépourvu de Dieu et perdu dans la noirceur du péché. À propos, l'expression « rudiment du monde » semble également être liée à l'adoration des esprits élémentaires, impliqués d'une manière ou d'une autre dans les étoiles et les planètes. Dans notre société, ils se mêlent à l'astrologie. Ainsi l'homme rejettera la révélation et lui restera un héritage de ténèbres. Cela le mènera à la troisième étape. Nous y sommes finalement arrivés. Troisième étape, la rationalisation. Mettez-vous à l'aise. Je vais finir cela, je pense. La rationalisation, c'est fascinant. Vous pouvez voir ici la chute de l'homme. La troisième raison pour laquelle Dieu a le droit de les juger est la rationalisation. Verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Les voici. Ils ont dit non à la révélation. Ils ont totalement rejeté la vérité. Ils se retrouvent avec une philosophie humaine, vide et dénuée de sens. Leurs cœurs sombres sont remplis de tromperies. Ils annoncent qu'ils sont sages. Maintenant, c'est la rationalisation, la futilité entraînant la perte de contact avec la réalité. Ils ne savent même plus ce qu'est la sagesse. Ils ont contourné la norme. L'homme ne sait pas penser correctement à propos de quoi que ce soit. Comment penser correctement? Il ne sait pas penser correctement. Il refuse d'accepter la vérité. Donc en fait, il détruit le pouvoir de discriminer. Comprenez-vous cela maintenant? Vous savez, parfois, quand j'écoute les philosophes et que je lis tous leurs déchets et que j'entends toutes ces personnes parler de ce qu'ils croient, de ce qui est bien et de ce qui est mal, c'est très frustrant pour moi. Vous vous dites, comment ont-ils pu penser de cette façon? Vous devez vous rappeler qu'ils pensent illogiquement. Ils ont abandonné tout droit de penser correctement. Donc, tout va mal se passer. Ils n'ont aucun pouvoir de discrimination. Ils ne peuvent pas percevoir la vérité. Ils ne peuvent pas percevoir l'erreur. Vous savez, il y a des années, les chrétiens ont décidé qu'ils devaient croire en l'évolution, parce qu'ils étaient intimidés par les philosophes qui enseignaient l'évolution. Donc, immédiatement, ils ont cherché des emplacements dans le système chrétien où vous pourriez mettre l'évolution. Et nous croyons toujours en la création, et Dieu l'a commencé. Puis l'évolution a pris le dessus, et ils sont venus avec ce que l'on appelle l'évolution théiste, ou le créationnisme progressiste. C'était un accommodement, parce que les gens étaient intimidés par la rationalisation de tout un tas d'imbéciles qui ne connaissaient pas la vérité, de toute façon. Et la théologie libérale. De plus en plus d'écoles et d'églises ont été ruinées par la théologie des libéraux, parce que les gens ont été intimidés par leur prétendu intellectualisme, alors qu'ils ne savaient rien. Ce sont des imbéciles. Ils vivent dans la folie ultime, en croyant qu'ils sont sages. Puis aujourd'hui, c'est la psychologie. Les gens pensent que les psychologues ont toutes les réponses. Ils n'ont pas les réponses. Ne soyez pas intimidés par eux. Les hommes pensent qu'ils sont intelligents, quand ils sont complètement idiots. Au fait, vous serez peut-être intéressé de savoir que le mot ici, ils sont devenus fous, et mot raino, d'où nous tirons crétins. Les hommes sont des crétins, mais ils pensent qu'ils sont sages. Quelle incroyable tromperie. Savez-vous ce qu'ils sont? Ils sont sages, d'accord, mais leur sagesse est limitée à une seule sphère. Ils sont sages à leurs propres yeux. Vous savez ce que cela veut dire? Ils ne sont sages que dans leur propre perception prétentieuse. C'est tout. Martin Lloyd-Jones, grand saint de Dieu, qui est maintenant avec le Seigneur, a écrit ceci. Toute la dérive vers le modernisme qui a détruit l'Église de Dieu et a presque détruit son évangile vivant peut être attribuée à une heure où les hommes ont commencé à se détourner de la révélation à la philosophie. Simplement dit, c'est quand ils ont cessé d'écouter la parole de Dieu et ont décidé qu'ils voulaient écouter les hommes. Donc, de nos jours, vous pouvez prendre une bonne institution chrétienne et vous commencez à vous sentir intimidé par la communauté universitaire. Alors vous finissez par fréquenter des personnes qui sont éduquées, formées aux philosophies du monde. Et très bientôt, elles savent tout ce qu'elle a toujours représenté. Elles intimident les gens, qui n'ont pas leurs prétendues qualifications. Regardez avec moi 1 Corinthiens 1. Maintenant, marquez soigneusement ce peuple. La philosophie est toujours opposée à l'Évangile. C'est toujours contre l'Évangile. C'est la sagesse de l'homme contre la sagesse de Dieu. Ainsi, dans 1 Corinthiens 1, 17, Paul dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage. En d'autres termes, pas seulement avec un verbiage, afin que la croix de Christ ne soit pas quoi ? Rendue vaine ? Maintenant, vous voyez à nouveau cette folie. Tandis que les hommes disent que leur folie est la sagesse, ils disent que la vraie sagesse est la folie. C'est là qu'ils sont. C'est là que le genre humain existe dans ce domaine. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Quoi ? De Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, la soi-disant sagesse. » En passant, ceci est cité dans Ésaïe, « Et j'anéantirai l'intelligence des sages. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'est-il pas convaincu de folie de la sagesse du monde ? C'est idiot. Ne vous laissez pas intimider. Qu'a fait la sagesse du monde pour transformer des vies ? Toute la philosophie des hommes à travers ces générations a-t-elle sauvé l'homme du déclin constant ? Non, il n'a aucun pouvoir. 1 Corinthiens 1:21 dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ce que la sagesse de l'homme ne pouvait pas faire, c'était la folie de Dieu. » Verset 25 « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Le message franc et clair, délivré par des chrétiens sans instruction, aux vies transformées, dépasse infiniment les complications enchevêtrées et confuses de la philosophie humaine. C'est ce qu'il dit. Imbécile, imbécile, le plus grand imbécile de tous est celui qui a rejeté la lumière, est allé dans les ténèbres, et rationalise maintenant que ces ténèbres sont la lumière, et la lumière est les ténèbres. Il pense qu'il a un super esprit alors que c'est un imbécile. C'est si simple. Vous voyez maintenant le déclin et la chute de l'homme. La révélation. Dieu lui a donné la vérité. Le rejet. Il a refusé de croire la vérité. La rationalisation. Il affirme alors que l'erreur qu'il a inventée est la vérité, et qu'il doit le faire pour se convaincre qu'il a raison. Mais c'est de la folie, parce que c'est une pure tromperie. Maintenant, la 4e étape dans le déclin et la chute de l'homme est la religion. Ce qui se produit, verset 23. Je vais simplement vous présenter ceci. C'est sensationnel. Puis il a changé la gloire du Dieu incorruptible en une image faite comme un homme corruptible, des oiseaux, des bêtes à 4 pieds et des choses rampantes. L'homme est devenu religieux. Il a fait des idoles avec les hommes. Il a fait des idoles avec des oiseaux. Il a fait des idoles avec des bêtes et des idoles avec des serpents, des insectes et des trucs comme cela. Maintenant, écoutez-moi. La religion n'est pas le point culminant de l'ascension de l'homme. La religion est le gouffre, c'est le niveau le plus bas. En premier lieu, Dieu est révélé, et l'homme connaît Dieu à travers le monde créé. Mais il rejette cela, et dans le vide qui lui reste se précipite la noirceur de l'ignorance intellectuelle et de la perversion morale. Au milieu de sa noirceur, il ne peut pas gérer le fait qu'il a tort, alors il rationalise qu'il a raison. Mais toujours dans son cœur, il y a un sentiment de vide, parce que quelque chose en lui exige un Dieu, alors il en invente un. N'est-ce pas incroyable que l'homme élimine le vrai Dieu pour en créer un qui n'existe pas, et ensuite il se dit sage? Ce serait comme un père qui a un fils, par exemple. Alors il assassine son fils pour acheter à sa place un mannequin ventriloque, et il passe le restant de sa vie à présenter le mannequin aux gens comme son fils. Nous l'aurions mis à l'asile. C'est ce que l'homme a fait. Nous verrons comment la semaine prochaine. Prions. Seigneur, nous sentons que nous sommes aux prises avec des vérités éternelles riches, profonde. Ce n'est pas la sagesse de l'homme, c'est ta sagesse. Qu'il est excitant de pouvoir comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est. On sait parfois que la rationalisation est très sophistiquée au niveau universitaire. Parfois, c'est très simpliste, car chaque homme et chaque femme qui te rejettent doivent rationaliser dans leur propre esprit qu'ils ont raison, à leur propre niveau, même si c'est sans complication et simpliste. Nous savons que l'homme, qui n'acceptera pas la révélation, qui entre dans le rejet, doit aussi entrer dans la rationalisation. Il doit vivre avec le fait qu'il a raison, et ainsi le monde est rempli de fantaisies. Dieu, aide-nous à percer ce monde d'imbéciles. Nous qui étions autrefois fous aussi, puissions-nous ne pas être si prompts à condamner, en sachant que nous aussi, nous serions des imbéciles sans ta grâce. Comme nous devons les atteindre, pour leur donner la vérité. Dieu nous aide à faire briller un peu de lumière dans leurs ténèbres, afin que la lumière glorieuse de Jésus-Christ éclate sur eux. Puissions-nous ne pas arriver au point où nous nous isolons simplement par rapport à ceux qui savent tout, mais puissions-nous reconnaître avec humilité que sans ta tendre grâce et ta miséricorde, nous serions aussi ignorants que les autres, dans une profonde gratitude, avec adoration et action de grâce. Puissions-nous aller dans ce monde obscur, alors que Jésus est venu apporter la lumière, afin que les ténèbres puissent s'enfuir, et hors des complexités de leur rationalisation, elles puissent entrer dans la simplicité du Christ et la lumière du glorieux Évangile, qui est si basique, si facile à comprendre, que même un enfant peut le faire. Nous prierons ce soir pour tous les êtres chers parmi nous qui sont encore dans les ténèbres. Puissent-ils voir Christ dans toute sa gloire et ne pas continuer le cours qui se termine inévitablement par la colère de Dieu. Pour l'amour de Jésus, nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.